Quel plaisir de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique, dans Carrefour Science et Santé. Le rendez-vous d'aujourd'hui se focalise sur le virus Zika, une menace aux femmes enceintes, l'utilité, mais aussi les dangers des microbes pathogènes, la lutte contre la polio et les méthodes de prévention, l'ovulation et la fertilité de la femme pour plaire.
Les résultats ont montré qu'une femme apparaît comme rivale à une autre femme lorsque toutes deux sont en période d'ovulation. Ce qui signifie d'une part que les femmes fertiles sont vues comme plus jolies par d'autres femmes en période d'ovulation.
Mélis Seguel va le développer davantage. L'environnement et la science ne manqueront pas. Avec vous, Eric Manirakiza. Merci de me rejoindre dans un instant. Au Brésil, les moustiques du diable brisent les rêves de famille. C'est le virus Zika, transmis par les moustiques. Ce virus est très dangereux chez les femmes enceintes pour les bébés. En Colombie, beaucoup de personnes sont également touchées. Identifiée pour la première fois en Ouganda en 1947, Zika commence à se propager en Europe. Anastasie Tudiesh s'est informée pour nous.
C'est un virus transmis par des moustiques du genre Aedes, plus connu sous le nom de moustique tigre, qui propage également la dengue, le chikungunya. Le virus Zika, quant à lui, entraîne la fièvre, des douleurs musculaires et des éruptions cutanées, voire des complications neurologiques. Mais c'est pour la femme enceinte qu'il est le plus dangereux. Il peut en effet causer des lésions cérébrales chez un fœtus en développement, ou même une microcéphalie, c'est-à-dire une taille anormalement petite de la tête, et de graves retards mentaux. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont averti jeudi qu'il n'y avait ni vaccin pour prévenir la propagation, ni médicaments pour traiter les personnes touchées. Les moustiques ne piquent pas seulement la nuit, mais aussi pendant la journée, donc les précautions à prendre sont permanentes. Les voyageurs sont invités à rester dans des endroits fermés, à porter des vêtements de protection et à utiliser des insectifuges. Le Brésil et la Colombie sont les pays où il y a le plus de cas de microcéphalie signalés. Mais le virus se répand rapidement dans les pays voisins. Il a été identifié dans plus de 21 pays en Amérique latine, mais également en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. En Europe, quelques cas ont été observés au Royaume-Uni, en Italie, au Portugal, en Suisse et au Danemark. Le problème est que 80% des personnes infestées par le virus ne présentent aucun symptôme, ce qui rend très difficile le diagnostic. Grâce à des contrôles constants, 4 personnes viennent tout juste d'être testées positives au virus dans la région de New York, aux États-Unis. Les scientifiques ont découvert le virus en Ouganda en 1940. Les scientifiques ont découvert le virus en Ouganda en 1947 en étudiant des singes. Ils l'ont isolé dans les années 1950 chez un humain au Nigeria. Les cas confirmés étaient rares jusqu'en 2007 lors d'une épidémie et a été identifié. Les cas confirmés étaient rares jusqu'en 2007 lorsqu'une épidémie a été identifiée dans les États fédérés de Micronésie dans le Pacifique Sud.
Pour compléter ta recherche, Anastasie, Mélis Seguel a joint le docteur Alena Koskalova de Médecins sans frontières en Slovaquie, spécialisée dans les maladies tropicales.
Donc, le virus Zika, c'est un virus qui appartient à la même famille que le virus de la fièvre d'Inde. Et en fait, il se propage par les moustiques de type Aedes, qui en fait très répandu en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et centrale.
Pourquoi est-ce que c'est chez les femmes enceintes que ce virus est le plus dangereux?
Normalement, en fait, les gens qui sont infectés, la plupart de ces gens sont asymptomatiques. Et même ceux qui présentent des symptômes, ce sont d'habitude des symptômes qui sont très légers. Donc, c'est la fièvre, l'éruption cutanée, des douleurs musculaires, les céphalées. Mais en fait, ce qui a été décrit récemment en fait, au Brésil, c'est que ce virus potentiellement peut causer en fait, une malformation congénitale. Donc, il peut être dangereux pour le fœtus. En fait, la relation causale n'est pas encore établie, mais on pense que ce virus peut être dangereux pour les femmes enceintes, pour ce risque de malformation congénitale.
Quels sont les moyens de prévention?
En fait, il n'existe pas un traitement spécifique pour le virus Zika, il n'existe pas un vaccin. Donc, pour cela, pour protéger, il y a plusieurs possibilités. Donc, surtout pour les personnes, nous pouvons conseiller en fait ne pas voyager dans les zones à risque, si c'est possible. Et puis en fait, pour les gens qui se trouvent dans ces zones à risque, on conseille surtout la prévention contre les piqûres de moustiques, donc utiliser des repellents pendant toute la journée, parce que les moustiques Aedes piquent pendant toute la journée. Et puis aussi dormir sous la moustiquaire.
Est-ce que c'est le même moustique qui transmet le paludisme et Zika?
Non, en fait, le moustique Aedes transmet par exemple le virus de la fièvre d'Ancre ou Chikungunya. Mais ce n'est pas le même type de moustique qui transmet le paludisme. Le virus qui transmet le paludisme s'appelle Anopheles.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika se propage de manière explosive sur le continent américain. Déjà, 1,5 million de personnes sont contaminées au Brésil, le pays le plus touché. Un désespoir envahit cette partie du monde, mais comme Romain Rolland le dit, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. La volonté de vaincre Zika constitue donc un espoir. Jeudi prochain, le 1er février, l'OMS convoquera une réunion d'urgence pour que l'expansion du virus soit limitée. Et la semaine prochaine, nous serons avec le docteur Amadou Sol, administrateur de l'Institut Pasteur à Dakar au Sénégal, impliqué dans la recherche pour juguler le virus Zika. L'information sur notre santé continue. Carrefour revient sur d'autres cas de virus et des microbes dans l'ensemble. Hélène Harpin est professeure de microbiologie. Elle attire notre attention sur le danger des microbes qui constitue un véritable problème de santé publique dans les pays essentiellement pauvres.
Alors, les microbes, effectivement, peuvent poser des problèmes de santé publique, et ça fait longtemps qu'on le sait. Maintenant, peut-être qu'il faut cerner un peu plus ce qu'on appelle un microbe. Globalement, on emploie ce terme pour désigner à la fois les bactéries, qui sont donc des petits micro-organismes, on va dire, qui se multiplient, eux, de façon très rapide, en fonction des conditions dans lesquelles ils sont, mais en dehors d'un organisme vivant, donc très facilement en fait. Ensuite, on a les virus, hein, qui sont plutôt, qu'on trouve uniquement dans les cellules vivantes. Et puis on a les parasites, qui sont un peu plus gros et qui vivent dans des organismes vivants entiers. Alors le problème des microbes en fait, en santé publique, c'est qu'on les trouve un petit peu partout. Aussi bien dans l'air, l'eau, le sol. On en trouve aussi sur la peau, bien sûr, dans l'intestin. Et bon, alors certains sont utiles, hein, très utiles pour l'homme. Par exemple, ce que l'on a dans l'intestin, on en a une grande quantité et ils sont nécessaires en fait pour notre digestion. Hein. Et puis, on en a aussi au niveau de la peau, de la gorge, du vagin, et ça permet justement d'empêcher d'autres microbes de rentrer dans l'organisme, on va dire. Hein? Donc dans ce point de vue-là, ils sont très utiles. Par contre, évidemment, en santé publique, le problème, c'est les microbes qui sont, eux, pathogènes, c'est-à-dire qui vont entraîner des maladies. Hein? C'est cela dont on parle le plus, évidemment. Et le problème de ces microbes, c'est que, d'une part, ils vont se multiplier facilement et d'autre part, certains vont pouvoir rentrer aussi facilement et contaminer l'homme et entraîner des maladies.
Selon notre professeur de microbiologie, les virus présentent beaucoup de dangers à la santé de l'homme.
Les microbes les plus virulents, c'est-à-dire qui sont, on va dire, les plus capables d'entraîner des maladies, hein, et puis qui vont être des maladies graves. C'est surtout, moi je dirais, des virus. Hein, donc, le problème donc, des virus, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas se multiplier en dehors d'une cellule vivante. Donc, on ne les trouve pas n'importe où quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent très graves, ils entraînent des maladies très graves. Exemple, le paludisme, malaria transmise par les moustiques et qui touche l'Afrique évidemment. Dans le monde, le palud touche environ 300 millions de personnes et fait environ 1 million de morts par an. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres maladies qui proviennent de bactéries plutôt, comme le choléra, les salmonelles, d'autres bactéries qui entraînent tout ce qui est diarrhée, gastro-entérite, qui sont pas des maladies très graves, mais qui sont quand même assez fréquentes. Et surtout que l'on peut éviter facilement par des mesures d'hygiène assez simples, on va dire.
Il y a aussi la fièvre Lassa, il y a ce virus Zika.
Voilà.
Qui se propage, oui. Des maladies comme le tétanos, la polio, etc., est-ce que ça a des origines microbiennes?
Oui. Alors le tétanos, il provient d'une bactérie qu'on trouve dans le sol. Et l'avantage, c'est qu'on est vacciné normalement contre le tétanos dès 3-4 mois. Et puis ensuite, il y a des rappels à faire fréquemment avant 5 ans. Et ensuite, on fait des rappels tous les 10 ans environ, à partir de 12 ans. Donc ça, c'est une maladie qui normalement ne devrait plus être très fréquente, mais qui apparaît encore. Alors elle apparaît surtout chez les personnes un peu plus âgées, qui oublient de faire les rappels de la vaccination et qui travaillent dans le sol, dans leur jardin, etc., et qui manipulent les produits un petit peu coupants, et donc ils peuvent se contaminer de cette façon-là. Et ils ne sont plus protégés par le vaccin alors qu'ils pensaient avoir fait cette vaccination à un moment donné de leur vie. Mais là, si on ne fait pas les rappels, ça c'est important bien sûr de les faire, donc de faire une petite injection de rappel pour ces vaccins-là, eh bien les personnes âgées peuvent être encore atteintes de tétanos, et dans un peu tous les pays actuellement. Voilà. Ensuite, pour la tuberculose, même chose, il y a un vaccin qui est normalement obligatoire, et on fait quelques rappels si le test ensuite est négatif vers les 10, 11 ans ou 16 ans ensuite. Voilà, donc ça, ce sont des maladies qui devraient être désormais de moins en moins fréquentes. Alors, d'autres personnes aussi peuvent avoir ce type de maladie désormais, c'est justement les personnes qui sont atteintes du virus du sida, parce que eux sont immunodéficients, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre en place de défense immunitaire, et de ce fait, eh ben, ils sont facilement contaminés par des microbes qui ne sont pas très puissant, très virulent normalement. Donc ça, c'est aussi un problème. Les gens qui sont atteints donc du sida.
Dans la prochaine livraison de Carrefour, Hélène Harpin articulera sur l'importance de l'hygiène dans la lutte contre les microbes. Nous découvrirons ensemble que faire son hygiène correctement peut vous offrir un bon sourire et ensoleiller votre journée. Eric Manelakiza avec vous. Regard sur le Malawi. L'UNICEF mène une vaste opération de dépistage de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, et ce, après un récent rapport qui a révélé que 2,8 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires au Malawi. Lamek Massina, correspondant de La Voix de l'Amérique, s'est rendu dans un centre de dépistage dans le district de Zomba, dans le sud-est du pays. Anne Albertson se fait l'écho de son récit.
Il est 8 heures du matin et le centre de dépistage de Chamba, à Zomba, ancienne capitale du Malawi, est bondé de mamans avec leurs enfants. Elisa Kadeya, qui habite dans le village de Chiwanganya, vient d'apprendre que son enfant de 3 ans souffre de malnutrition. Elle n'est pas étonnée. Nous n'avons pas de nourriture et il est difficile de trouver même des petits boulots pour gagner de quoi acheter de la nourriture. Et la plupart des bébés que vous entendez pleurer, c'est parce qu'ils ont faim. Les inondations et la sécheresse qu'a connue le pays l'an dernier ont provoqué les pires pénuries alimentaires en une décennie. Selon de récents témoignages, la famine s'aggrave dans les communautés et les villages. Le gouvernement du Malawi a mis en place son programme de dépistage et de traitement de la malnutrition en 2002 dans plus de 90% des districts du pays. Mais les statistiques montrent que 50% des enfants doivent être soignés en raison du manque de matériel médical dans les dispensaires publics. L'opération de l'UNICEF, avec le soutien du département britannique pour le développement international, vise à généraliser l'accès aux soins pour les enfants malnutris. À Zomba, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance espère soigner environ 6 000 enfants. Gilbert Dachi est expert en nutrition à l'UNICEF.
We can take care of these children.
Nous pouvons soigner ces enfants grâce à des programmes de compléments alimentaires destinés aux enfants souffrant de malnutrition modérée. Il y a aussi des programmes d'alimentation thérapeutique et en cas de malnutrition sévère, nous pouvons les référer à des centres de traitement spécialisés.
Si elle n'est pas soignée, la malnutrition entrave le bon développement de l'enfant. Maggie Chiwala, experte en nutrition au ministère de la Santé du Malawi. Quand les enfants sont malnutris, les adultes doivent les emmener à l'hôpital. Et quand les enfants sont malades, ils ne peuvent pas se concentrer à l'école. En outre, leurs parents n'ont même plus le temps d'aller au champ ou de travailler. Selon les autorités, le nombre de cas de malnutrition pourrait diminuer considérablement au Malawi si les agriculteurs étaient encouragés à avoir recours à l'irrigation au lieu de compter sur les pluies, car ils pourraient ainsi avoir des récoltes pendant toute l'année.
De l'Afrique australe, Carrefour nous promène à Lagos pour parler vaccination. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a visité le Nigeria en vue de collaborer avec l'homme le plus riche de l'Afrique, les gouverneurs de plusieurs États du Nord, sur une nouvelle campagne de lutte contre la polio et d'autres maladies préventives par la vaccination. Nanit Talani nous présente le compte-rendu de Chris Stein.
Les gouverneurs de quatre États du Nord se sont réunis mercredi dans la ville de Kaduna pour signer des protocoles d'entente avec la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Dangote de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, ainsi que l'ambassadeur américain au Nigeria. Les protocoles d'entente lancent le coup d'envoi des programmes qui visent à augmenter la couverture de la vaccination infantile à 80% en 2018. La représentante de la Fondation Gates au Nigeria, Mairo Mandara, affirme que les États du Borno, Yobe, Kaduna et Sokoto ont été choisis parce qu'ils ont le plus grand besoin de vaccination. Ils se joignent aux États de Kano et Bauchi qui renouvellent leurs accords préexistants.
Si vous regardez l'ensemble du pays, le plus bas niveau de la vaccination sont dans les États où ces protocoles d'entente sont signés.
Mairo Mandara déclare que dans certains États du Nord, les taux de vaccination sont aussi bas que 30%. Selon les termes des accords, les fondations Gates et Dangote et les gouvernements des États se partageront le coût des initiatives comme l'envoi des équipes pour vacciner les enfants. Un autre objectif est celui de prévenir la réémergence de la polio. Le Nigeria n'a pas signalé de cas de cette maladie depuis 2014 et l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré que la polio n'était plus endémique au Nigeria. Mais Mandara dit qu'il y a encore du travail à faire avant que le pays ne soit déclaré exempt de poliomyélite.
Nous devons maintenir l'immunité des enfants, l'immunité du troupeau, de sorte que lorsque les enfants voyagent dans d'autres endroits, ils n'importent pas la maladie ni ne la ramènent.
Andrew Jonathan Nock, le commissaire de la santé et des services sociaux de l'État de Kaduna, dit qu'il croit que les nouveaux programmes aideront l'État à atteindre une couverture vaccinale de 100%.
Donc, quand nous aurons ces programmes pleinement activés, cela signifie que nous allons même finir par avoir environ près de 100% de vaccination dans les gouvernements locaux respectifs.
Mondara affirme qu'elle ne peut pas encore dire combien serait dépensé sur les nouveaux programmes puisque les besoins des États sont encore en cours d'évaluation.
Nous retrouvons Chérubin Dorsil pour voyager dans l'espace. Son choix d'aujourd'hui, c'est la planète et son étoile. Découvrons ensemble une relation très longue distance que la planète entretient avec son étoile.
Distance record de près de 1 million d'années entre une planète et son étoile. Croyez-vous que cela est possible? Eh bien oui, Eric. Les astronomes ont découvert une planète considérée jusqu'ici comme une planète flottante, naviguant sans étoile parente. Nous avons bien dit « jusqu'ici » puisque les chercheurs viennent de trouver une parente à ce gigantesque système planétaire le plus grand jamais observé. Baptisé 2 masses J21-26, cet astre géant n'est pas seul, contrairement aux suppositions antérieures. Des chercheurs viennent en effet de lui trouver une étoile, mais la planète navigue si loin de cette étoile qu'elle met près de 1 million d'années pour compléter une orbite, selon une étude publiée dans Monthly Notices de la Royal Astronomical Society. Les astronomes qui ont découvert ce système solaire proviennent d'un groupe de scientifiques internationaux qui étudient les jeunes étoiles et les naines brunes à proximité de notre propre système solaire. De masse J21-26, une géante gazeuse environ 15 fois plus grande que Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, était juste un des milliers de jeunes planètes à l'étude. On a vite découvert que les deux corps, la planète solitaire et son étoile haute, ultérieure, étaient autour de la même distance de la Terre, environ 100 millions d'années-lumière. Ils ont ensuite mesuré leur mouvement et voilà, le lien a été rapidement confirmé. L'étoile qu'on lui a finalement associée se situe à une distance qui équivaut à environ 7000 fois la distance de la Terre au Soleil. Cette orbite devient du même coup la plus large connue à ce jour. Il lui faut environ 900 000 années terrestres pour faire le tour de son étoile. Alors, Eric, la question que certains vont tout de suite se poser est la suivante. Pourrait-il exister une trace de vie sur cette planète? Peu probable, répondent les scientifiques.
Avant de nous dire au revoir, Carrefour vous propose un fait divers, pas comme les autres, étonnant, surprenant et intéressant également. Pour bien assimiler notre fait divers, je vous propose même de vous servir un petit verre. Et en période de violation, les femmes sont au top. C'est ce que rapporte une étude publiée mercredi par la Royal Society britannique. Donc, quand les femmes peuvent potentiellement avoir un enfant, elles sont plus rapides, plus belles, plus vigilantes et plus attirantes. Qu'en dites-vous, Maëlys Segel?
Et oui, en effet, nous les femmes, quand nous sommes en période d'ovulation, nous nous sentons mieux dans notre peau. Ou du moins, moi, j'ai cette impression-là chaque mois. Et cette étude le confirme, lorsque nous sommes fertiles, nous plaisons plus. Comment ont procédé les scientifiques? Ils ont étudié la réaction d'une centaine de femmes devant des photos d'autres femmes, une photo pendant l'ovulation et une autre après. Chaque participante devait indiquer sur laquelle des deux images les femmes étaient les plus belles et quelle femme était le plus susceptible de leur voler leur partenaire. Les résultats ont montré qu'une femme apparaît comme rivale à une autre femme lorsque toutes deux sont en période d'ovulation. Ce qui signifie d'une part que les femmes fertiles sont vues comme plus jolies par d'autres femmes en période d'ovulation, mais cela signifie aussi que les femmes sont plus attentives à ces détails-là lorsqu'elles sont en période de fertilité, et ces capacités féminines seraient inconscientes. D'autres études montrent également que les hommes sont davantage attirés par des femmes en période d'ovulation. Une étude américaine affirmait même que les stripteaseuses amassaient davantage de pourboires pendant cette période. Pour des biologistes, le visage de la femme fertile serait plus symétrique et donc plus beau selon nos critères. Plus attirante donc, mais également plus attentive. Des chercheurs japonais ont étudié les capacités de femmes fertiles face à un danger et les résultats sont probants. Lorsqu'il s'agit de repérer un serpent, symbole même du danger pour l'espèce humaine, personne ne peut battre une femme qui vient d'ovuler. Cela pourrait être le résultat d'une adaptation de l'espèce humaine qui renforcerait la vigilance des femmes lorsqu'elles sont enceintes. Prenez garde donc, chers messieurs, à ne pas embêter une femme lorsqu'elle est en période d'ovulation.
J'espère que tu as entendu Maëlys et Jules Renard ironise. Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer quelques mots. Merci d'avoir placé ce mot, Maëlys. Ainsi s'achève Carrefour Sciences et Santé. Eric Manirakiza vous souhaite la meilleure chez vous.